prendre le pouvoir. C'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
L'équipe de Dans mon tiroir est en...
Bonsoir et bienvenue dans Mon Tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel. 10e émission en direct déjà avec ce soir Joe à la technique, bonsoir, mais aussi Olivier. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir Manu.
Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Bonsoir, t'es déjà à 75%.
Oui, je sais, on va refaire un petit reset tout à l'heure. Bonsoir Orlan.
Bonsoir.
Le retour de Théo, et bonsoir.
Bonsoir.
Et un guest, l'animateur de générique sur Radio G, Yann, qui a décidé de se mesurer aux auditeurs. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Alors Yann, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui peut vous expliquer en 30 minutes ce qu'il pourrait le faire en 30 secondes. Ce qui veut dire que ce soir, il prend un gros risque. Hein, puisque nos auditeurs aiment bien les choses concises et voilà.
J'ai peur.
Voilà, si tu es trop long, tu vas te faire banner direct. Donc ça va être très 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 compliqué. Allez, tout est prêt. On va ouvrir nos tiroirs et les votes sur la page radio-g.fr. Bienvenue dans Mon Tiroir. Allez, je vais bientôt faire un petit reset, mais on va commencer avec Florian. De quoi nous parles-tu ce soir, Florian ?
Eh bien, je vais vous parler de mort.
Oh,
puisque il y a 15 jours, vous avez apprécié la chronique spéciale Halloween.
C'est pas le mot, hein.
Je vais donc vous parler des morts les plus bêtes, en fait, des rois. Alors, pas que des rois de France, hein, il y en a au moins deux qui ont des morts assez bêtes, mais des rois dans le monde entier.
C'est dommage, ils ont rêvé à être rois. Alors, et tout, ils ont tout pour eux. Et...
tout à fait. Et oui, mais en fait, ils ne sont pas à l'abri de morts assez...
violentes.
Pas communes, mais en tout cas, ils ne sont pas à l'abri de mourir de façon...
prématuré.
Et prématuré, bien sûr, en général. Alors, il y a trois types de rois. Il y a les trop pressés, il y a les trop gourmands, et il y a ceux qui ont encore moins de bol que les deux catégories d'avant.
D'accord.
Alors, je vais commencer par les rois bien trop pressés. Alors, on a Charles VIII, donc de France, pour le coup. Alors, sa mort, elle est assez connue, puisqu'il emmène sa femme... Alors, il s'ennuyait un peu au château, du coup, donc il emmène sa femme jouer au jeu de paume, et il descend les escaliers, et là...
C'est
le drame, puisque...
Il se prend une poutre, c'est ça, je sais pas.
Bah non, tu vas nous le dire.
Non. Il se prend la
poutre d'une porte assez basse. Ouais.
Voilà, la pierre, en tout cas. Voilà. Donc, il faisait 1m60. Alors bon, ça allait encore. Donc, je pense qu'il a vraiment pas de bol. Mais il était un peu trop pressé pour descendre.
1m60, ça avait
alors,
une petite
oui,
porte.
Oui, 1m60, hein. Moi, je comprends pas, parce que je fais 1m60.
Mais dans les châteaux, il y a des portes qui sont...
C'était petit à l'époque.
Petites. Ils étaient petits, donc...
Il est passé par une petite coursive, peut-être, hein, qui était... Je sais pas.
En tout cas, je me suis jamais pris la tête. Jamais.
Alors sinon, il y a Louis III. Alors lui, Louis III, il courait après les jolies filles, du coup. Et là, cette fois-ci, il en voit une. Et il était tellement pressé qu'il rentre dans une étable. Alors pour faire l'affaire, du coup, dans l'étable.
Avec la fille.
Avec la fille, bien sûr. Mais sauf que manque de bol, la porte est aussi un peu basse. Et il se prend l'embrasure en pleine tronche.
Ah aussi ?
C'est la fin. Voilà.
Oh, et avant quoi ? Il a même pas.
Avant quoi ?
Il a même pas.
Non,
voilà, ça, c'est dommage. En
de toute façon,
encore.
La fille était pas trop d'accord, apparemment, donc c'est mieux que.
Ah, elle était mieux pour elle, du coup, elle.
Ils ont des problèmes de vue, les rois, ou.
Je ne sais pas,
On est sûr de ça, que c'est pas la fille qui lui a filé un coup de bâton ou un truc. Oui, c'est ça, elle était pas d'accord.
C'est l'histoire, le dira peut-être un jour.
C'est fou, surtout parce qu'il y a quand même. Enfin, je veux dire, sur le front, il n'y a pas de truc hyper vital.
Ah, aussi quand même.
Derrière, encore,
non,
mais à
c'est des hémorragies internes, en fait.
Si tu cours et tu t'en prends une, quand même.
Ah, ouais, mais il faut vraiment y aller violent, je pense, quand même.
Ah, oui, mais. Ah bah tu sais, au galop, tu rentres dans une étape, tu te prends un truc, je pense que...
Ouais, c'est vrai.
Alors sinon, il y a les trop gourmands. Donc nous avons Adolphe Frédéric de Suève. Oui, vous avez eu peur aussi.
Oui, on a eu peur aussi, non.
Pas de panique. Adolphe Frédéric de Suède, qui lui était bien trop gourmand et qui s'empiffre de 14 tranches de gâteau. Donc à mon avis, ça devait être des bons gâteaux. Mais sauf qu'il n'a pas trop supporté et donc en pleine nuit, il fait une bonne indigestion et c'était la fin.
Voilà. Ah, donc carrément, quoi. Bah, mourir d'indigestion, faut quand même y aller, quand même.
Ah, écoutez, oui. À l'époque, ils aimaient bien manger, donc.
Ouais, voilà. Il a pas été empoisonné.
Je comprends pas comment c'est possible, en fait. Je comprends pas.
Bon, peut-être que les aliments étaient peut-être un petit peu aussi.
Ouais, pas frais.
Ah oui, d'accord.
Un petit peu pas frais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres où ça leur arrive, du coup. Sinon, il y a Béla Ier de Hongrie.
Qui? Quoi?
Béla Ier.
Ah, Béla Ier. C'est un homme, une femme?
C'est un homme.
Béla, d'accord.
Béla, oui, c'est un roi.
Ouais. Je l'ai.
Effectivement. Alors lui, c'est pareil, il était aussi très gourmand. Et donc, il avait bien mangé, donc son poids était aussi conséquent. Mais sauf que le trône en bois ne pouvait pas le supporter. Donc, le trône s'est cassé.
Non.
Et dans
enfin, la... on meurt pas d'un trône cassé.
Et dans la casse, en fait, il s'est empalé sur une latte. Voilà.
Aïe, aïe,
et donc, c'était la fin aussi pour lui. Alors, même si tu meurs pas forcément comme ça, mais en tout cas, dans ces époques-là, oui, je vous donne pas les époques, mais à chaque fois, c'est au Moyen-Âge. Dans ces époques-là, du coup, une blessure
bah oui, ça pouvait
pour guérir,
très
c'était
très
compliqué. Donc, du coup, voilà, c'était.
Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que là, on est toujours à 100%. C'est-à-dire que là, les auditeurs, ils ont pas.
Oui.
Voilà, ça veut dire qu'ils aiment bien les morts, en fait. Hein, parce que la dernière fois, déjà,
j'en ai d'autres. J'en ai d'autres.
Ah, il en a d'autres morts. Bah, allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Alors, donc. Sinon, la troisième catégorie, donc les trous, enfin ceux qui ont trop pas de bol, encore moins que les premiers, nous avons Georges II. Qui lui, alors c'est un peu en lien avec l'alimentation. Mais bon, c'est un peu...
Ah.
Georges II, lui, l'histoire dit pas s'il était gourmand ou pas, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, à un moment donné, il doit aller aux toilettes, voilà, pour faire la grosse commission et la rupture d'un aneurysme.
Ah, il a dû pousser un peu fort.
Il
hein.
a poussé trop fort.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et c'était fatal pour lui. Donc c'est un peu con quand même. Enfin. Puis c'est pas l'endroit où faut mourir. Enfin.
Ouais. Alors moi, du coup, je suis très curieux de savoir ce que tu as trouvé dans ton dans ton tiroir pour pouvoir nous sortir ce genre d'histoire.
Un vieux bouquin d'histoire.
Oui. J'imagine.
L'histoire à lire. Vous savez l'histoire à lire
dans les toilettes
ou l'histoire à lire aux toilettes. Voilà.
C'est pour ça.
Okay. L'anecdote. Alors sinon, vous avez Alexandre Ier de Grèce, alors qui a pas été roi très longtemps, mais voilà parce qu'il est mort très tôt. Il aimait bien les chiens, donc il avait un chien. Il part se promener avec son chien. Le chien commence à se bagarrer avec un singe. Alors, un singe en Grèce, bon, peut-être. Mais en tout cas, c'était un singe. Et le singe, lui, mord la jambe. Ouais. Au roi, bien sûr.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, bah, c'est fatal aussi, du coup, puisque la plaie s'infecte et il s'en remettra pas. Et puis sinon, la meilleure, peut-être pour la fin, du coup, c'est Jacques II d'Écosse, qui, lui, a vraiment pas de bol, mais aussi un boulard assez conséquent. Et quand on parle de boulard... c'est bien puisque lui il était assez guerrier et il aimait bien les canons.
Ah.
Et donc pour sa gloire en fait, il a eu envie de sonner un coup de canon. Il met le boulet dans le canon, il allume la mèche et là le canon part dans le mauvais sens.
Ah
et donc sur lui. Donc sur lui. Voilà. Donc bon.
Ça c'est bête.
Et oui.
Effectivement. Ben écoute, t'es à 75%. Donc
ça va,
voilà.
Ça va.
C'était vraiment très intéressant.
Très bien. Bah, on en aura d'autres, morts pendant l'émission. J'ai vu ce que j'ai vu au programme. Enfin bon, très bien. Allez, il y a Raphaël qui nous dit que ça fait flipper ce que raconte Flo. Bah, tout à fait. En tout cas, t'es arrivé à 75%. Un mort de plus, c'était tes morts aussi, hein. Allez, un petit reset. On continue avec Joe, justement. Tu nous parles de quoi?
Alors, moi, ce soir, je vous parle d'un jeu de société. Est-ce que vous connaissez le jeu Unlock?
Oui.
Non.
Non.
Qu'est-ce que c'est?
Non.
Ok, il y a un petit peu de tout. Alors, Unlock, c'est un jeu d'escape game. Alors, est-ce que vous connaissez les escape games?
Oui.
Oui.
Ah, ça vous montre. Ok, tout le monde connaît. Donc, c'est un jeu d'escape game. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est un jeu où il y a trois scénarios dedans. Et, en fait, vous devez suivre une aventure pour essayer de sortir d'une certaine situation. Donc, soit c'est, je sais pas, des terroristes qui ont posé une bombe et donc du coup il faut réussir à la retirer, soit c'est des braqueurs de banque par exemple qui veulent faire un casse dans une banque et qui doivent en sortir sous un certain temps. Et donc en fait c'est plein de scénarios comme ça, donc comme un vrai escape game mais là dans un jeu. Et c'est une série de jeux de société où je crois qu'il y en a 11 actuellement. Il y en a un qui sort en décembre prochain et c'est une des meilleures séries de jeux d'escape game parce qu'elle a été plusieurs fois primée. Alors j'ai plus les récompenses en tête, mais je vous la conseille vraiment pour ceux qui les ont jamais fait et qui veulent s'intéresser, qui s'intéressent aux jeux d'enquête, aux jeux d'escape game comme ça. Donc c'est vraiment très très cool et il y a plein de, comme je disais, des scénarios différents et qui se recoupent des fois, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui reviennent des fois et qui font référence à certains d'avant. Donc vous êtes pas obligé de les avoir déjà fait. Il y a pas vraiment de suite en soi, mais il y a juste des références entre chaque. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très cool. Et comme je vous disais,
disons que c'est un grand mode des jeux coopératifs en fait. On
alors
est
oui,
tous
c'est
contre
ça.
La machine.
Exactement. Moi ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup. C'est les jeux où tu joues contre le jeu. C'est-à-dire que là, tout le monde joue en même temps. Donc en plus, il y a les en fait, ça se joue par avec des cartes et les cartes font référence à des objets, à des choses dans une pièce et tu dois les associer, donc faire les numéros qui sont inscrits sur les cartes, tu dois les additionner pour essayer de trouver la réponse à l'énigme du moment.
Mais c'est lié aussi à des applications. On peut jouer avec son smartphone.
Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, ça c'est la base, c'est ce qui est fourni dans le jeu. Mais il y a aussi obligatoirement une application qui est dans ton téléphone et qui est différente en fonction à chaque fois. Enfin, l'application est tout le temps la même, mais les scénarios sont différents en fonction de la boîte que tu as. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ils arrivent à se renouveler au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont nouvelles. Il y a des choses en réalité augmentée, par exemple, que j'ai découvert il y a quelques temps. Donc c'est-à-dire qu'avec ton téléphone, tu mets les cartes d'une certaine façon. Et ça fait mettre en relief certains éléments. Donc c'est vraiment très très cool. Il y a pas mal d'idées. Je trouve que vraiment ils essaient tout le temps de se renouveler. Donc voilà, c'est la série Unlock.
Ouais,
donc,
le seul truc, c'est qu'une fois que tu l'as fait, en fait, c'est fini.
Alors voilà, effectivement, voilà. Moi j'avais un souci avec ça, c'est qu'une fois que tu le fais, ouais, effectivement, c'est fini. Sachant que ça fait partie des rares escape games qui sont pas destructibles. C'est-à-dire qu'il y a la série Exit aussi, qui est très très bien, mais qui eux sont destructibles. C'est-à-dire que tu l'utilises une fois et malheureusement tu ne peux pas les refaire du tout.
Ah, parce que tu découpes des
choses.
Parce
que voilà, tu découpes, tu bouges des choses dans les pièces et donc du coup ça te nique tout. Il y a un seul scénario sur tous ceux que j'ai fait de Unlock où il fallait plier un truc et donc du coup comme c'est un jeu que j'avais récupéré par quelqu'un d'autre, on voyait la pliure.
La pliure, oui.
Mais c'est tout. Sinon, franchement, c'est très abordable et enfin c'est très pas du tout abordable. C'est très comment je veux dire.
Tout le monde peut y jouer.
Ouais, voilà, il y a une vraie rejouabilité pour le donner à quelqu'un, parce que ce qui est intéressant avec ces genres de jeux, ça coûte une trentaine d'euros. Donc en fait, une fois que tu les as finis, soit tu les passes à un pote à toi, donc mm-hmm. vous pouvez échanger. Soit il y a pas mal de gens qui le prennent en seconde main aussi. Donc par exemple sur Le Bon Coin et tout, moi je sais que j'en ai déjà acheté comme ça. Alors faut bien vérifier évidemment qu'il y a toutes les pièces, parce que c'est noté dans la boîte du jeu. Que contient la boîte, mm-hmm. mais voilà, pour le coup, c'est vraiment intéressant à se refiler après pour éviter juste de se dire bon t'as utilisé les trois et maintenant après il y a des collectionneurs qui gardent les boîtes. Hein,
mais alors voilà. Sur le chat, il y en a qui connaissent, hein, qui nous disent mais ils disent que c'est quand même assez dur. Alors et c'est vrai que pour y avoir joué, quand t'as pas l'habitude, il y a quand même des petits détails sur la carte, il y a des mécanismes qui sont à peu près les mêmes à chaque fois d'ailleurs, mais voilà, il faut quand même les savoir un peu. C'est un petit peu dur pour quelqu'un qui a jamais fait. Hein.
Alors je vais être tout à fait honnête, il y a des moments c'est dur, mais le pire, c'est que malgré le fait que j'aime beaucoup ça, c'est que des fois il y a des erreurs. En fait, c'est pas vraiment des erreurs, c'est des choses qui sont pas tout à fait logiques. Et en gros, pour arriver à une solution, donc je te disais, tu additionnes deux cartes. Mm-hmm. Et il y a des fois, tu additionnes deux cartes et ça t'arrive à une solution qui est plus loin. Et en fait, tu as sauté une ou deux étapes. Et donc, du coup, ça, je trouve ça dommage que ça existe. Alors, c'est de moins en moins présent sur les jeux récents, mais sur les anciens scénarios, ça arrive des fois. Donc, voilà.
OK. Bah, écoute, voilà. T'as 100%, ça intéresse tout le monde. C'est parti.
Génial.
C'est vraiment très intéressant.
Allez, on poursuit maintenant avec Orlan.
Oui. Alors, moi, on va rester, du coup, un petit peu dans le thème de la mort, parce que moi, je vais vous parler des momies. Alors, dans mon tiroir, je n'ai non pas retrouvé une momie, mais un ticket de Louvre, parce que je suis allée au Louvre ce week-end. Voilà, profitez-en, parce que jusqu'à 25 ans, c'est gratuit.
Tout ça, comme elle se la pète pour dire qu'elle est jeune.
Exactement.
Mais
j'ai encore du temps avant mes 25 ans.
Allez, zip là.
Donc voilà, j'ai trouvé un ticket du Louvre. Alors, bien évidemment, on avait juste une matinée, donc on n'avait clairement pas le temps de faire même pas un dixième du Louvre. Donc, on a fait juste une partie de la partie Égypte. Et moi, ce que je voulais voir surtout, c'était les momies. Moi, j'aime bien les trucs un peu
la Joconde.
Alors, j'ai fait la Joconde aussi, mais bon, avec tous les gens qu'il y a devant. Donc non, c'était plutôt sympa. Et moi, ce qui m'a vraiment scié, c'était surtout qu'on voyait vraiment des momies de chats. Et il y avait des momies d'animaux.
Ouais.
Alors, quand j'ai vu la tête de la momie de chat, clairement, on aurait dit mon doudou. Genre, mon doudou de 20 ans, où il lui manque des oreilles, c'était vraiment, c'est tout atrophié.
Oh.
Donc voilà, bon après on le savait, hein, tous les chats sont... Enfin, les chats étaient très importants pour les Égyptiens à l'époque. Est-ce que vous saviez, petit tour de table, ce que représentaient les chats pour les Égyptiens à l'époque?
Je sais pas, parce qu'ils mangeaient les souris, peut-être c'était pour...
Non,
eux, c'était...
les chats étaient vénérés à l'époque.
Vénérés carrément.
Ouais,
ils
les
considéraient un peu comme des dieux, non, je crois.
Ouais, mais est-ce que vous saviez à peu près ce que ça représente?
Quel dieu? Ah, il y avait un dieu particulier?
Oui.
Le dieu chat, le dieu...
Oui, exactement.
Et Mastep?
Alors, c'était Bastet, donc c'était Bastet. Divinité de la guerre. Et de base, c'était représenté par une lionne. Alors, on est loin entre le lion et le chat. Donc, au fil du temps, je pense que les Égyptiens, ils se sont juste contentés de leur chat.
Oui, une fois qu'ils se sont fait bouffer par deux, trois lions, ils se sont dit,
voilà,
on va peut-être prendre
exactement.
Le chat,
donc,
c'est mieux.
Exactement. Donc, au lieu de la guerre, c'est devenu symbole de protection du foyer. Ceci dit, moi, quand je vois mon chat qui se prélasse sur le canapé et tout ça,
au niveau de la
je me dis qu'il n'a pas perdu son statut de dieu dans sa tête. Ça, c'est sûr.
C'est sûr.
Donc, à l'époque, les momifications, c'était très important pour les Égyptiens. Ça leur permettait un très bon état de conservation. En fait, c'était très important pour eux de conserver au plus le corps parce qu'on avait vraiment cette idée d'une réelle vie après la mort, à tel point qu'on mettait, par exemple, des objets du quotidien dans les tombeaux.
Des portables et tout, s'ils peuvent appeler après.
Je pense qu'ils étaient évolués, mais peut-être pas à ce point-là. Ou les tablettes avec les hiéroglyphes, éventuellement.
C'est ça, pour s'occuper un peu, un peu de lecture.
Exactement. Donc, et en fait, pour l'anecdote, ils ont découvert ça parce qu'en fait, avec des voyageurs qui étaient décédés dans le désert. Et en fait, ils ont vu que le sable conservait vraiment bien les corps qu'ils ont retrouvés. Donc, c'est parti de là, apparemment, la momification. Donc, il était beaucoup coutume de momifier des animaux. Mais vraiment, les chats, c'était un gros business. Parce que comme c'était hyper vénéré, les prêtres se sont dit, de l'époque, qu'ils allaient en vendre à l'entrée des catacombes et des temples qu'on a
fait. Mais des chats vivants ou des chats
momifiés?
Momifiés.
Sauf que vous vous doutez bien, le chat momifié, il faut du coup qu'il soit mort.
Ouais.
Et il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Donc trouver un chat mort, ça ne courait pas les rues.
D'accord. Donc on n'attendait pas leur mort en fait.
Exactement. Merde. Donc les prêtres ont fait un élevage de petits chatons.
Oh non.
Très mignons.
Quelle horreur.
Alors je vous passe les détails de ce que j'ai lu. De la façon, des conditions de vie, c'était vraiment genre...
Non.
Voilà, c'était pas fou. Et voilà, donc c'était vraiment utilisé comme pour faire une offrande dans les divinités. Et donc voilà, ils faisaient des élevages de petits chats.
Donc, okay.
C'était pas top. Et puis, pour finir, j'ai aussi découvert que les prêtres étaient quand même, alors pas tous, hein, mais je pense que c'est par manque de chats ou alors une petite part Brigitte Bardot en eux. Ils ont quand même quelquefois arnaqué les pèlerins.
Il n'y avait pas de chats à l'intérieur?
Exactement. On a retrouvé, en fait, en passant en scanner les momies qu'on a retrouvées, et ben, soit juste des petits morceaux de squelette qui correspondaient pas forcément, ou alors des bandelettes vides.
Ah. D'accord.
Ouais, comme quoi, on ne sait pas.
Il y en a quand même qui avaient une morale
et que le côté arnaque était déjà à l'époque.
Bon, faites pas tous des chroniques sur les morts quand même, parce que c'est vrai que là vous êtes à 100%, mais enfin ça va devenir très mortel comme émission quand même. En tout cas, bravo, c'est intéressant.
Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant.
Allez, on poursuit avec Olivier.
Oui, dans mon tiroir, j'ai retrouvé des guirlandes de Noël, parce que c'est bientôt Noël.
Ah, c'est vrai que c'est la période.
Et qui dit Noël, dit film de Noël.
Ah, mon Dieu,
donc,
non.
Donc, j'ai essayé de vous faire, alors pas film de Noël, mais voir, parce qu'on sortit les distributeurs pour Noël, qu'est-ce qu'on va aller voir au cinéma d'ici Noël. Donc, je vous ai sélectionné à peu près 8 films. Alors, on ira voir tout d'abord le 22 novembre, pour toi, Florian, tu iras voir Napoléon, le film de Ridley Scott, avec dans le rôle titre Joaquin Phoenix.
Ouais, mais j'ai très peur.
Mais
j'ai
ça,
peur.
Attends, c'est un film de Noël, ça?
Bah, Napoléon version Jingle américaine, je suis pas sûr.
À voir. Alors ça tourne plus autour de la relation avec Joséphine de Beauharnais. Et par contre, on voit la campagne d'Égypte, la campagne de Russie. En fait, on a l'impression de voir tout le film à travers la bande-annonce. On voit tout. Enfin, à voir.
Il dure 350, non?
Oui, il dure plus de 2 heures. Ouais. Pareil, dure plus de quasiment 3 heures. Le 1er décembre, on ira voir, pour ceux qui aiment, Renaissance. C'est le film sur le concert de Beyoncé.
Alors, Napoléon à Beyoncé.
Voilà, bah, apparemment, il y a des fans, il y en a qui, j'ai regardé là, à l'instant, il y a pas mal de places de réservées déjà pour ce film. Bon, bref. On passe après sur le Disney de Noël, ça s'appelle Wish. Hein, pas le site chinois, mais Wish.
Oui, c'est
Wish.
Vrai, oui.
C'est un animal rabais.
Achat et la bonne étoile. Il y a une bonne annonce, il a bien amusé, ça s'appelle Noël Joyeux. Alors, c'est avec Franck Dubosc et Emmanuel De Vos. Voilà, c'est un couple de sexagénaires qui reçoivent à Noël deux mamies qui sont en EHPAD toutes seules. Et puis, elles vont leur faire vivre un véritable enfer. Bon, je vois que ça passe.
C'était à 75, là, donc je vois que ça passionne.
Le 13 décembre, le film de Noël, c'est Wonka, avec un film avec Timothée Chalamet qui joue le rôle de Willy Wonka. Donc, on verra sa jeunesse, sa rencontre avec les Oompa Woompa, et puis la fondation de la fameuse chocolaterie. On ira voir aussi Les Trois Mousquetaires, la suite des Trois Mousquetaires qui est sortie au printemps. Il y a un film qui va être autour de Jeff Panaclock, à la poursuite de Jean-Marc. Voilà, la rencontre entre Jeff Panaclock et Jean-Marc la marionnette.
Ouais.
Et puis on finira par Aquaman et le Royaume perdu.
Aïe, 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 ça, voilà. Ça fait mal, ça, par contre.
C'est les films, les gros films qui sortent. Ouais. Alors après, je sais pas dans ce film-là, qu'est-ce qui vous donne envie?
Hunger Games qui sort, non?
Oui, alors,
le nouveau, le reboot d'Hunger Games.
Bonaparte et puis c'est tout, je crois.
Même pas Wonka, non, t'aimes pas.
Alors attends, on a Yann qui est notre spécialiste cinéma quand même. Est-ce que ces films-là, tu les connais? Est-ce que tu as envie de les voir?
Wonka, oui, me plaît pas mal.
Ouais.
Et alors Jeff, moi, je préfère aller les voir en spectacle qu'au cinéma. J'ai un peu des craintes là-dessus. Ouais. Mais Wonka, ouais, ça me plaît pas mal. Napoléon.
Ouais, moi je pense
qu'il y a déjà beaucoup de critiques sur Napoléon.
Jean-Marc étaient ce week-end au Pensée.
Ah d'accord.
Ah oui, c'est vrai.
Et avant-première.
OK, Théo, il a vu des critiques sur Napoléon.
Il y a beaucoup de critiques sur Napoléon parce qu'apparemment ça retrace pas vraiment l'histoire. Et d'ailleurs Ridley Scott, il a publié, parce qu'en fait, il y a un historien qui a dû voir le film ou qui a dû voir des extraits, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Ridley Scott lui a dit d'aller se faire, de s'acheter une vie, en fait, parce que si vous voulez voir un film sur Napoléon historique, il fallait voir un documentaire. Mmh. Et apparemment, c'est pas du tout la tournure de ce qu'il a voulu donner à son film. C'est ce que j'ai vu.
En 2h30, ça va pas résumer la vie de Napoléon. Hein, tellement de choses à dire.
Non, mais je pense que ça peut être bien pour les images et pour le côté épique.
Oui, par contre, les images de Napoléon,
mais après,
belles.
en termes de Enfin, le côté historique, je pense qu'il est, il est un peu absent. Enfin, le pas la vérité historique, mais du coup, le. Bon, bref.
Il faut lui donner sa chance. Moi, je dis Cyril Lescott, c'est un bon réalisateur, très artiste.
Ah, ça y est, oh, je crois qu'on a eu un s'en fout, là.
Ça y est, 100%.
Oui, ça y est, c'est bon, quand même, on y arrive.
C'est bien, j'avais fini.
Ouf. Oui, après, c'est sur nous qu'il y a eu 100%.
Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on parlait cinéma, justement, ben, on a Yann. Alors, attention, sa première chronique dans DMT.
J'ai peur.
Ça va même pas parler cinéma.
Même pas. J'ai hésité, je me suis dit bon, il y a déjà Olivier, on va parler d'autres choses. Et j'ai réellement ouvert mon tiroir. Ah. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon tiroir?
Ouais. T'as trouvé quoi?
J'ai trouvé ce livre. Alors, et c'est quoi comme livre?
Alors c'est de la radio, hein, mais c'est un livre.
C'est un livre.
Eh
ben tu vas nous dire.
Ça, alors, c'est le book marqué. Des nouveaux réseaux.
Le. Alors là, tu as tout le réseau.
Irigo.
Alors le réseau.
D'accord.
Irigo, de bus, de tram, d'Angers.
Ah, je crois que c'est un réseau de drogue.
Non, c'est pas encore.
De quelle année, s'il te plaît? Parce qu'il est quand même bien abîmé, le truc.
Non, je l'utilise beaucoup.
C'est pour ça.
Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais les réseaux de transport urbain d'Angers, ça date de quand? Donc je vais faire un tour de table justement et je vais vous faire participer. De quand date le premier réseau de transport urbain d'Angers?
Début du 20e.
Il y avait même des tramways à l'époque.
Début 20e, il y avait déjà des tramways.
Dans les années...
Avant.
Les années 19e siècle, je sais pas. Ah, 1860.
Non, il y a Joe qui dit 30 ans, mais moi je dis.
Il y avait les charrettes.
Mais non,
il y avait les charrettes. En 891, il y avait les charrettes.
Enfin, 19e, je pense.
Moi je dis plus de 100 ans.
Non, c'est pas mal.
On dit un réseau urbain.
Oui, on parle de réseau urbain organisé avec.
Voilà, des transports en commun. Ouais. D'accord. Bah, je dirais mi-19e.
1828.
Voilà.
Ah, ouais. La ville d'Angers est pourvue de lignes régulières d'omnibus avec les chevaux. Il faut attendre le 23 mai 1896 pour voir se développer deux voire trois lignes. Alors, voilà, il y a deux grandes lignes. Et là, on parle par contre de tramway.
Déjà.
Donc, 1896.
Et tramway à cheval, du coup.
Non, électrique.
Ah, électrique.
Électrique.
D'accord.
Avec, donc, une première ligne qui va de Angers à Érigné. Alors, on voit un petit peu quand on arrive sur Mur-Érigné dans la grande côte, on voit un grand bâtiment et c'était le terminus sur la gauche. Alors, il y a les cafés, il y a des restos et de l'autre côté à gauche,
il y a une boulangerie.
Voilà. Un grand bâtiment en pierre, c'est le terminus.
Et ça traversait un pont qui était à côté du pont de Verdun, c'était ça?
C'est ça.
Ouais, ok.
Une autre ligne qui va d'Angers à la pyramide, très lasée. Et puis une petite ligne qui va de Ralliement à Saint-Jacques. Alors, les bus, au fur et à mesure, ont remplacé progressivement le tram. Donc, qui est au bout d'un moment, ils ont dit, c'est quand même plus pratique le bus parce que voilà, ça
on
passe.
On va un peu partout, oui.
On va un peu partout. Et le 30 avril 1949, l'exploitation du tramway est arrêtée à Angers. Et en 1965, la compagnie des transports donc urbains devient la compagnie des transports angevins. Alors pour ceux qui ont pris le bus quand ils étaient jeunes,
ah oui,
voilà, compagnie c'est O, des transports donc le T de transport et angevin le A. Cotra, c'est la oui. Cotra est arrivée. Alors on peut encore voir un des premiers tramways. Donc de ce premier réseau, on peut encore le voir aujourd'hui. Alors à votre avis, où ça?
Alors un tramway dans un musée.
Voilà une matrice, une motrice de du premier d'un des premières rames.
Il y a un
pas
musée
très loin d'Angers.
Saint-Barthélemy,
non.
Pignerol,
non. Pas de ce côté-là, de l'autre côté.
Ah ouais. Eugénie, Jody.
Avrier.
Ah, c'est une asso qui l'a.
Ah oui, d'accord.
Une asso, une association qui justement s'occupe pas forcément de tramway. Eux, c'est plus dans les trains.
D'accord. Ils ont récupéré ça.
Non, ça vous parle pas.
Ils avaient été invités dans une association. Un jour, mais...
c'est pas la mine bleue, non?
Non, non, non. Saint-Jean-de-Linière.
Saint-Jean-de-Linière.
Saint-Jean-de-Linière, l'association du Petit Anjou.
Mais on les a reçus aux 40 ans de la radio.
C'est ça.
Oui, je me souviens.
Et donc, arrive maintenant le nouveau réseau avec le nouveau tramway qui est arrivé en quelle année?
2001?
Un peu plus.
2002, alors?
Un peu plus.
Ah, 2011. Quand même, déjà 3.
2011.
Ah oui, quand même.
2011, un beau tramway. Alors, on le voit un petit peu sur les photos. Beau tramway avec un arc-en-ciel.
Rainbow.
Et alors, la deuxième question que je vais vous poser, c'est justement l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel?
On va rien dire.
On va rien dire.
Je crois vraiment que c'est lié, non? Il n'y a pas une histoire avec le côté Rainbow Flag?
Ah non,
alors,
non.
Quand le réseau est arrivé, il y a eu une des associations, justement, d'Angers, qui a ironiquement remercié, donc c'était l'association Quasar, qui a ironiquement remercié la mairie d'Angers d'avoir justement un réseau gay-friendly.
C'est ça.
Mais en fait, non. C'est pas ça. Les couleurs à l'arrivée du tramway, en fait, il y avait donc les plusieurs couleurs de proposer. Mm-hmm. Donc ils ont fait plusieurs maquettes avec plusieurs couleurs de proposer et il y en a aucune qui a justement eu l'obtention générale des votes.
Ah, du coup, ils ont mis tout le
donc,
monde.
Donc du coup, ils se sont dit, on va mettre un arc-en-ciel avec les couleurs et ils se sont dit, ouais, c'est pas mal et c'était plus pratique pour refaire aussi toute la base de bus et de
donc ouais, ces couleurs. C'est pour ça, pour contenter tout le monde.
Ça reprend toutes les couleurs qui étaient proposées.
Et Irigo, ça veut dire quoi?
Alors Irigo, c'était la question d'après, c'est bien.
Ah, excuse-moi, ouais.
C'est bien, mais tu me devances. Pourquoi Irigo?
Attends, pour revenir sur les couleurs, en fait, ils ont juste fini les pots de peinture.
C'est ça.
Voilà.
Il nous reste ça. Vous n'avez plus de rose, hein, d'ailleurs.
Alors Irigo, pourquoi Irigo?
Je sais pas, c'est parce que
c'est pas comme l'anglais.
C'est un hommage à Mario. Irigo.
Irigo. Non, pas du tout. Ah, c'est, ils ont été chercher très 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 loin. Alors Irigo, il y avait une connotation justement dans Irigo, on entend
irrigation.
Ouais. Et c'est pour reprendre ce côté, on va irriguer justement sur le territoire avec les réseaux. Ah oui, non mais.
Ah ouais.
Il y a des gens qui se droguent pour ça en fait, mais en plus ils sont payés.
Oui, ils sont bien payés.
Ils sont payés pour ça.
Mais en même temps, pour payer la drogue.
Alors.
Et il paraît que ce nom a été proposé aux usagers et aux salariés de l'entreprise.
D'accord. Mais comme tout le monde se drogue dans l'entreprise,
voilà. Ils ont choisi Irigo. Les usagers aussi.
D'accord.
Et puis voilà. Après, c'est des petites informations. À l'époque, on était deux pour le tramway. Aujourd'hui, il y en a qu'un qui conduit le tramway. À l'époque, ils étaient deux. Quoi? Et comment s'appelaient les deux personnes? Il y avait un qui conduisait et un qui était à côté.
Dupont et Dupont?
Alors, le nom de...
Jacques et Michel, mais...
Le nom professionnel... Non, ils n'étaient pas encore là. Le nom professionnel, justement, de la personne qui conduit un tramway.
Ah, un conducteur?
Non.
C'est un mécano.
Un mécano? Non.
Un tramiste? Maintenant, on parle plus de tramino, mais à l'époque...
Un tramido?
Tramino.
Un tramino?
Tramino.
Oh, ça fait un jeu de société. T'as joué au tramino aujourd'hui?
Ouais. Mais à l'époque, on parlait, il y avait un terme bien spécifique. Alors, faut penser comment fonctionne un tramway.
Électrique?
Électrique.
Un électricien, un électro?
Alors, c'est un rapport avec justement ça.
Ah bon? Claude François?
Non. Alors, l'unité de puissance en électricité?
Watt.
Le watt.
Un wattiste?
Alors.
Un water. Water. Oh, bon, non, les water, je vais aller au water.
Non, on n'était pas dans les water.
C'est ça.
Et alors, en général, on est un peu macho, donc on parle d'hommes.
Un Walkman.
Le Walkman était.
Il avait un casque sur la tête et il écoutait de la musique.
Il écoutait un Walkman.
C'est ça.
Et à côté, on avait. Alors là, on va penser à un chanteur français qui en parlait.
Justement, je t'en parlais avec Claude François.
L'autre. L'autre chanteur.
Johnny Hallyday.
Qui est mort aussi.
Johnny Hallyday.
Non.
À quoi?
Mike Brandt?
Son épouse l'a rejoint il n'y a pas très longtemps.
Ah, Michel Berger?
Jen.
Gainsbourg,
il nous parlait de quoi dans sa chanson?
Oh là, il y a
le composteur des Lilas. Le composteur.
Ah, pas le composteur. Poinçonneur.
Le poinçonneur, pardon, oui.
Voilà. Et donc, il y avait le conducteur et le. Donc, le Walkman et le poinçonneur qui étaient à côté. Et dernière question.
Oui.
De quand date le tout premier transport? Un transport en commun au monde.
125.
Vous ne saurez pas.
Oh, 125%, dis donc, t'as énervé beaucoup de gens à la fin.
J'aime bien ça.
C'était Paris.
Non. Ok.
Non.
Bon,
non.
Tu peux nous le dire, non, la réponse quand
la
même.
Date. La date. La 1662. Blaise Pascal.
Ah, mais fais ce qu'il
invente.
Ok.
Le transport en commun.
D'accord.
Voilà. Merci.
Bon, voilà, vous avez prévenu que ce serait long avec.
Presque allé jusqu'au bout.
Il a réussi à tout faire, hein, c'est très bien. Bravo. Allez, on continue avec Manu.
Alors, moi, je vais vous parler. En fait, j'ai pas cherché dans mon tiroir, mais je me suis arrêtée à un feu tricolore. Vous voulez que je vous raconte ma vie?
Non, non, pas le temps.
Bon. Merde alors. Et en fait, non, je m'ai arrêtée à un feu, puis j'ai tourné la tête sur la droite. J'ai vu, oh, c'est quoi les bornes qu'on trouve sur le bord des routes? Vous savez, les bornes kilométriques avec une flamme rouge.
Oui.
Vous savez ce que c'est, en fait? Oui. Au juste ça. Alors, les plus vieux ne disent rien, évidemment. Je m'adresse aux plus jeunes.
Ah, bah, justement, ah oui. Bah,
moi, je me tais là.
Merci Bruno.
Aucune idée, je sais même pas. Je sais même pas à quoi ça ressemble.
Voilà, en fait, ça c'est une borne qui est plutôt arrondie, une grosse borne, ouais, qui est plutôt arrondie, qui fait environ 1m20. On va calmer tout de suite Florian.
Avec un bout rouge.
Voilà. Avec... Non, ah non, bah non, justement. Par contre, elles ont une flamme rouge et elles sont identifiables parce que elles s'appellent dessus. Elles ont l'appellation la voix de la liberté. Et qu'est-ce que c'est que la voix de la liberté? Je m'adresse aux plus jeunes aussi. Vous ne savez pas. Eh ben, en fait, c'est la voie de la liberté, c'est les bornes qui ont été décidées et qui cheminent tout le long de la voie qui part de Sainte-Mère-l'Église jusqu'à Bastogne, en Belgique, et qui symbolise le parcours de la 3e armée du général Patton au moment de la libération de la France de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous me direz, bah d'accord, ok, mais Manu, où est-ce que t'es allé pour voir une borne au bord de ta route? Eh ben, Angers, avenue Pasteur, il y en a une notamment.
Ah ben, il y en a plusieurs.
Et il y en a même plusieurs.
Il y en a au Jardin du Mail.
Il y en a au Jardin du Mail, vous en trouverez un peu partout, mais sur des axes routiers qui ont été libérés. Voilà, c'est des axes routiers qui ont été assez importants pour la libération de la France et notamment d'Angers. Puisque,
comme vous le savez peut-être pas... On disait que c'était des bornes incendies, mais c'est vrai qu'il y avait une flamme au-dessus.
Ouais, mais non, en fait, c'est pas des bornes incendies. Oh, ma chronique est utile, je suis contente. Ah mais vraiment.
On apprend des choses.
Ouais, et en fait, la première voie qui a été ouverte comme ça pour commémorer la victoire des Alliés, elle a été construite justement entre Sainte-Mère-l'Église et après il y en a eu d'autres puisque la France a été libérée comme ça très progressivement. Et en fait cette histoire c'est l'idée géniale d'un général américain qui a eu cette idée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui finalement au sorti de la Seconde Guerre mondiale, a décidé de la mettre en œuvre. Ils nous ont demandé du coup à un monsieur qui s'appelle François Cogné de leur proposer ces petites bornes, voilà, décoratives. Et alors, la flamme, je vous demanderai bien, pour vous, qu'est-ce que ça symbolise, là, sur ces petites bornes?
Les Jeux Olympiques.
Non, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle rien? Sérieusement?
Une flamme?
Non, là. Mais c'est le... Ah!
Ouais, moi, la statue de la liberté.
Ah, okay.
Ouais. En fait, ça symbolise la flamme de la statue de la liberté, qui, elle, avait été érigée en 1886 aux États-Unis. Évidemment, et symbole de liberté à l'échelle mondiale. Donc forcément, là, elle trouvait toute sa place. J'ai pas entendu, j'ai mon casque en fait. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote houille. Alors, la petite anecdote houille, c'est qu'au départ, ces bornes, elles étaient en ciment rose. Et puis, comme elles étaient tout le long des routes, et ben les voitures, le trafic augmentant, et ben il y avait des accidents et le ciment rose, et ben c'est très très dur. Donc, ils ont décidé de les changer petit à petit pour des matériaux un petit peu plus légers, évidemment, pour que ça fasse un petit peu moins houille. Voilà. Petite question?
Non, ça va, t'es à 50%.
Si, moi, j'en ai
là.
Une.
Alors, une petite question, vas-y.
Mais du coup,
je sais
une...
pas si je vais pouvoir répondre.
Bah, non, mais elle est très très simple. Bah. Ça a juste une utilité symbolique, du
symbolique,
coup.
Symbolique, ouais. Ça a juste une portée symbolique, c'est un devoir de mémoire, en fait, tout simplement.
Ok.
Voilà. Puis c'est l'objet pour nous de faire une, c'est l'occasion pour nous de faire une petite chronique. Est-ce que vous voulez une autre petite, une anecdote ouin ouin?
Non, alors.
Ouais,
très,
si,
très
une anecdote
alors,
ouin ouin.
Très c'est rapidement, bien, vite fait.
En fait, les bornes, il y a deux bornes zéro. À cette route légendaire.
Le départ et l'arrivée?
Non, parce que le point zéro, c'est à Sainte-Mère-l'Église, parce que le maire s'est battu pour avoir la borne zéro. Et en fait, les mairies, enfin les maires des communes voisines en Normandie, qui elles aussi avaient eu le débarquement, étaient vraiment très très en colère. Et du coup, le maire de Utah Beach, lui, il a décidé de faire le point 0-0. Voilà.
Wow.
C'était la petite anecdote.
Ils se battent même pour ça. Voilà. Bah écoute, t'es arrivé à 75%, bravo quand même.
Bah,
c'était
attends,
vraiment très
pas...
intéressant.
Ah, bah Non?
Bah non, j'ai pas fini.
Alors bah vas-y,
désolé.
continue.
Pourquoi
alors
les autres ils ont le droit d'aller au bout et pas moi?
Alors non mais vas-y, mais t'as 75%. Attends. Donc tu vas peut-être
ouais,
t'en prendre.
Bah
une,
les
hein.
autres sont arrêtés à 100 et 125%, okay. Je me rebelle là.
Alors
merde.
Vas-y, qu'est-ce qu'il te reste à dire?
Ah bah j'ai une anecdote ouais ouais.
D'accord.
Alors l'anecdote ouais ouais, c'est qu'il y a deux bornes aux USA, justement à l'entrée du parc Patton Park à Hamilton.
C'est connu, ça.
Voilà,
c'est
et
connu,
ça.
Bah, tu, voulais, hein. Tu le voulais. Non, mais tu le voulais. Tu
mais
le
j'ai
voulais.
Perdu du temps à cause de vous parce que vous m'avez interrompu.
Alors, c'est pas une question de temps, hein. C'est une question de chiant.
Ouais, et bah, chiant, je suis désolée, j'étais à 75%.
C'est bien.
Donc j'étais pas chiante à 100%.
Ok, merci Manu.
Je suis pas d'accord.
Allez, avec Yann et Manu, on aura du mal hein, ce soir. Allez, on continue avec Théo.
Alors moi, c'est mon tiroir informatique. J'ai retrouvé quelque chose dans mes vieux dossiers d'ordinateur. Ouais, on est connecté. C'est mes recherches Google, etc. Et mes recherches sur les jeux vidéo. Notamment un jeu qui s'appelle Five Nights at Freddy. Je suppose que...
Alors, Joe connaît. Je connais.
Moi, je connais.
Alors, là, connaît.
Je connais qu'il y a un film qui est sorti.
Exactement. Ah. Et ben, je suis allé voir le film ce week-end. Franchement, c'est un film très sympathique.
Oh, je sais pas le mot.
Mais laissez-moi t'expliquer.
D'accord, ok.
Alors, je me suis renseigné parce que normalement, c'est un film d'horreur, mais il n'y a pas d'interdiction en France. Il y a des interdictions dans d'autres pays, mais pas en France. Enfin, j'étais à la séance, il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir en famille.
Oui, parce donc, que t'as 10 ans, hein, donc t'as réussi à rentrer.
Oui, j'ai réussi à rentrer malgré mon jeune âge. mais non, il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir en famille. Alors, l'histoire n'est pas du tout canon aux jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on peut créer une histoire avec le film indépendamment du jeu vidéo. Mais moi, j'ai envie de vous parler du jeu vidéo, et pas spécialement du film. Le film, vous le découvrirez par vous-même. Donc en fait, le jeu vidéo, c'est très simple. Je vais vous parler du premier jeu qui est sorti en 2014. Il est créé par Scott Cawthon. Je ne sais pas si je le prononce bien en anglais. L'histoire du jeu vidéo, donc c'est un jeu vidéo d'horreur. C'est très simple. En fait, on incarne un surveillant de nuit dans une pizzeria qui s'appelle Freddy Fazbear Pizza. Et en fait, c'est un jeu où on doit survivre 5 nuits d'affilée.
Dans une pizzeria, bah déjà,
dans une pizzeria, dans une pizzeria très délabrée.
Il y a de quoi manger.
Il n'y a plus rien à manger. Honnêtement, je n'irai pas manger dans cette pizzeria, vu l'état. Mais du coup, en fait, la nuit, on se fait attaquer par des animatroniques. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Il y en a 5 en tout. Vous voyez les petits chiens robotiques qu'on peut acheter pour en jouets pour nos enfants.
Ouais.
Bah, faut imaginer ça, qui fait la taille de 2 mètres. Avec des gros muscles et qui vous attaque avec des grosses dents.
Ouais, c'est pour la guerre des mondes, en fait.
Ouais, ça donne envie.
Et bah, ouais, ça donne envie, en effet, de faire ce job de surveillant.
Mais tu peux te battre, mais t'as quoi? T'as des armes, quand même?
Non, tu dois juste survivre. C'est le but du jeu.
D'accord, tu te caches, en fait.
Exactement. En fait, ton moyen de protection, c'est juste de fermer les portes.
Ah oui, tu peux pas bastonner, tu peux rien faire.
Ah non, tu ne peux attaquer personne.
C'est une nuit au musée, version pizza et animatronique.
Ah ouais,
c'est
voilà. Trop nul.
Super. Bah,
j'ai pas envie de jouer.
Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand même l'histoire du jeu. Parce que du coup, il y a 5 animatroniques. Mais pourquoi ils existent? Eh ben, on a la réponse dans le deuxième jeu. Et en fait, le deuxième jeu est coupé à chaque fin de nuit par des mini-jeux. Donc, il y a des jeux dans des jeux. Et en gros, ces mini-jeux nous expliquent l'histoire des animatroniques, de la pizzeria, de pourquoi cette pizzeria a fermé. C'est parce qu'en fait, il rôde un tueur dans le jeu qui tue des enfants. Voilà. Et en fait, ces enfants hantent les animatroniques qui nous attaquent. Et au fur et à mesure du jeu, de l'avancer, c'est-à-dire que il n'y a pas qu'un seul FNAF. On résume FNAF, il y a FNAF 1, je vous ai parlé de FNAF 2.
Il y a
FNAF. Non.
Mais
il y a FNAF 3, FNAF 4 et ainsi de suite. Il y a même des mangas, etc.
On s'en bat les couilles. Oh, t'en fous. Mais c'est son premier. C'est son premier, s'en fout. Bah, bravo. Oui.
Moi, j'en ai à chaque fois. On s'habitue pas du tout.
Allez, on va retrouver le jeu du Graal maintenant. Vous allez avoir 2 minutes pour trouver une série télé grâce à des indices. Vous jouez de chez vous et on nous donne la réponse le plus rapidement possible. Si vous donnez le titre sur le chat de radio-g.fr. Salut, partons à la rencontre d'une série. Un des personnages va se présenter à vous en vous donnant des indices. Vous avez 2 minutes pour retrouver le titre de cette série. Soyez le plus rapide. C'est parti.
J'ai un nom qu'on m'a donné quand on m'a mis au service du commandant. Avant, j'avais un autre nom. J'avais un mari et une fille. Nous étions heureux, libres, insouciants. Nous vivions dans une Amérique démocratique, où chacun avait le droit de penser, de parler, de s'habiller comme il le voulait. Mais tout a basculé le jour où cette secte a pris le pouvoir en assassinant le président. S'est instaurée une dictature théocratique fondée sur une interprétation littérale de la Bible. Ils ont supprimé les droits des femmes, les ont privées de leur travail, de leur argent, de leur identité. Ils les ont réduites à des objets, des ventres. Car dans ce monde ravagé par la pollution et les maladies, la fertilité est devenue rare. Les femmes capables d'enfanter sont devenues des esclaves, assignées à des couples stériles de l'élite dirigeante. Leur rôle est de concevoir un enfant pour eux, lors d'une cérémonie mensuelle où elles sont violées sous le regard des épouses. Je fais partie des servantes. On m'appelle De Fred. Mais mon vrai nom est June Osborne.
Avez-vous trouvé le nom de cette série d'anticipation de 2017 avec ces femmes en rouge et blanc? Voici quelques secondes encore pour trouver. Il s'agissait de La Servante écarlate, une série comme un signal d'alarme sur les futures dérives des démocraties. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast.
Eh ben voilà, il y a Olivier qui a réussi à trouver. Je ne sais pas si chez vous, vous avez réussi à trouver La Servante écarlate. Qui connaissait la série ?
Pas du tout.
Pas du tout, bah,
non,
Yann.
Non, de nom seulement.
Ah bon, même Théote, bah, c'est récent.
Non, je connais pas du tout.
D'accord,
bon. La musique est jolie.
Oui. Bah, alors, c'est pas très, bon, hein. C'est pas très drôle c'est comme série.
Noir,
mais,
très noir.
Évidemment, ce soir, c'est très très noir. On va voir si c'est dans vos tiroirs, vous avez encore des choses de noir. Voici la deuxième partie avec les tiroirs des chroniqueurs. Olivier, on va rouvrir ton tiroir. Tu nous parles de quoi?
Alors, ça va être rapide. Hein.
Vas-y, vas-y.
Moi, j'ai retrouvé une promo dans mon tiroir pour le Black Friday. Ça, c'est la semaine prochaine.
Ah, c'est la saison, ça commence.
Oui. Sauf que j'avais pas envie de vous parler du Black Friday. Il y a un truc que j'ai apprécié.
Mais final, c'est quoi ce teasing?
C'est l'inverse du Black Friday, c'est le Green Friday.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, c'est le Black Friday, c'est le symbole quand même d'une consommation galopante. Hein. On nous pousse à consommer à tir à l'arigot. Et le Green Friday, ben, c'est un collectif qui essaye de sensibiliser à la consommation éco-responsable pour nous. Et donc, le consommateur devient un consomme-acteur. Voilà.
Oh.
C'est beau.
Et donc, l'idée, c'est, moyennant finance, les entreprises s'engagent à avoir le label Green Friday. Et par ce label, eh bien, en fait, il n'y aura pas de réduction envers leurs clients. Mais par contre, ils s'engagent à reverser 10% du chiffre d'affaires au profit d'associations engagées et éco-responsables.
Ah, voilà. C'est pas mal.
Donc, je trouve que c'est une bonne idée.
Si c'est vraiment le cas, c'est bien.
Oui, oui, oui. Oui, c'est le cas.
D'accord. Ouais. T'as des noms de sociétés qui font ça?
Non.
Non? D'accord. Ok.
Non, mais, je voulais acheter un sac qui est fait avec des matériaux
recyclés.
De récupération, de matériaux de voiture, par exemple. Et je me dis, tu vas attendre le Black Friday, mais non, en fait, ils font le Green Friday, c'est-à-dire qu'ils vont verser de l'argent à des assos.
Ah oui, c'est dommage. Du coup, tu vas le prendre sur Amazon.
Je trouve l'idée bonne. Non. Je trouve l'idée est bonne, voilà.
D'accord, bah écoute, 75%, c'est bon, ça intéresse.
C'est vraiment très intéressant.
Allez, on poursuit maintenant avec Florian.
Alors, cette fois-ci, j'ai vraiment ouvert mon tiroir, enfin, mon placard plutôt.
D'accord, t'as trouvé des morts encore?
Et j'ai retrouvé une boîte de Coco Pops.
C'est quoi les Coco Pops?
Coco Pops ou Choco Pops?
C'est les anciens Choco Pops,
ouais.
Qui maintenant s'appellent Coco Pops. Enfin, il y a déjà 10 ans, ça s'appelle Coco Pops. Hein, déjà, mais...
Ah oui, moi j'étais resté au Choco Pops.
Et donc, bah moi aussi, du coup, mais bon. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit peu un historique des céréales depuis le déjeuner.
Oui.
Oula. Oui. Tout ça. Alors, à votre avis, de quand date l'invention, en fait, des céréales, enfin de manger des céréales.
Alors on avait une
pas
question,
forcément petit déj,
ouais, on avait une question grave là-dessus. C'était l'inventeur, vieux, mais tu as en tête déjà en parler. Pourquoi c'était fait les céréales au
États-Unis,
départ
États-Unis.
Pas forcément pourquoi. Mais...
Après la Révolution.
Alors en Amérique effectivement.
18e peut-être.
Et États-Unis plutôt milieu 19e.
Ah oui d'accord.
C'est Kellogg's.
1854. Non c'est pas Kellogg's, c'est Quaker.
Quaker. Ah oui.
Alors la marque existe toujours du coup. Mais à chaque fois, les noms, en fait, les noms que je vais vous citer, les marques existent encore. Donc, c'est assez.
Enfin, je trouve c'est ça bien que ça reste. Bah, ça marche bien.
Ouais. Ça reste. Donc, c'est Quaker qui a l'idée de faire des flocons d'avoine, hein, tout simplement, et de les proposer. Comme il y a un souci d'alimentation, en fait, de mieux manger, enfin, voilà, dans les années au 19e, ou à partir du milieu du 19e, on est dans la version hygiéniste des choses, donc c'est mieux manger, tout ça. Alors, bah, à l'époque, manger des céréales, c'était plutôt bien. Aujourd'hui, beaucoup moins bien, puisque c'est tout sucré, et c'est l'agroalimentaire de façon générale qui met plein de trucs dedans, et donc c'est. Faut mieux pas en manger d'ailleurs. Et
alors, il y a Yann
pas
qui fait.
Pour les gamins.
C'est vrai qu'il y a
dépend
les régimes, il connaît bien, c'est son style, donc tu prends pas de Kellogg's au petit déjeuner, toi?
Non, plus.
Plus. Ah, plus.
Puis après, ça dépend. Il y en a qui sont très bonnes, il n'y a pas trop de sucre.
Oui, voilà, après, il faut choisir.
C'est pas mal, ça.
Il faut choisir.
Il faut qu'on avoine.
Oui, j'aime bien. Oui, j'ai un peu de petites pétales comme ça. Là.
Après, il y a la question existentielle. Est-ce que tu mets dans le lait ou est-ce que tu mets le lait après?
Ah, ça, eh bien oui.
Est-ce que c'est avec ça, on n'a pas un 100%.
Chaud, froid ou pas. Alors sinon, ensuite, vers les années 1890, nous avons Kellogg's qui arrive. Enfin, Kellogg, en fait, c'est un stomatologue américain. Donc, du coup, toujours sur l'idée de faire mieux manger ses patients, eh ben, c'est lui qui invente les premiers cornflakes.
Tout à fait.
Donc, ce sont des pétales de maïs.
Alors, il y a eu un Graal là-dessus. C'était pour, alors, c'est très spécial. Hein, c'était pour éviter que les petits garçons se masturbent.
Ah, oui, effectivement, il y a ça aussi.
Rapport. Alors, je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Il fallait mieux les nourrir pour pas qu'ils s'adonnent à ce genre de choses. C'est très bizarre. Donc, maintenant, je vois les Kellogg's d'une certaine façon. J'en prends plus.
Alors sinon, vous avez l'invention du muesli.
Ah oui,
qui signifie petit râpé. Et donc c'est comme les Ricolas, ce sont les Suisses.
Ah.
Je cite plein de marques, hein, je suis
désolé, mais
au moins trois, c'est ça.
Bon, oui, minimum.
C'est bon, c'est fait.
C'est bon, j'y suis. Donc voilà, c'est les Suisses en 1906. Donc c'est pas si bah, ça fait.
Ça rime.
Tu sors.
Okay. Oh là là. Ensuite, nous avons en 1930 au Royaume-Uni, nous avons les biscuits de blé. Alors, un truc un peu assez fini, non?
Ah oui, les biscuits de blé. Oh oui, bon. Si. Bah si, non, on va pas.
Sinon, la céréale arrive en France en 1968.
D'accord. Voilà. Ok, très bien.
On est toujours un petit peu en retard par rapport. Enfin, en retard ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, en décalé par rapport aux autres.
Bon, Yann.
À moi encore?
Oui.
Oh.
Alors, tu nous parles de quoi?
Bah, on va parler un petit peu. Alors, vous me voyez là, vous vous dites, on va partir enlever tout de suite cette question de vos têtes. Vu comment il est gaulé, il fait forcément du sport depuis très longtemps.
Oui, on se disait.
Vous vous posez cette question-là.
Tu es coach sportif dans la vie?
Eh bah, ben, pas du tout.
Mais comment fait-il?
Pas du tout.
Mais oui.
Eh oui, pas du. Et vous dites, mais pourquoi il nous parle de? Parce que en fait, moi, je faisais pas du sport, je faisais un art martial.
Ah,
pendant quasiment 40 ans.
Mais c'est pas du sport.
Ah non, c'est pas du sport. Alors, je referai une chronique où je comparerai entre le sport et l'art martial qui est pas du sport du tout. Mais pourquoi, vous allez me dire pourquoi il nous parle d'arts martiaux? En ouvrant le tiroir, j'ai retrouvé ça. Donc,
ah,
une
ceinture.
Une vraie. Une vraie.
Mais elle est sombre, elle est noire.
Ceinture de judo. Elle est noire.
Non, t'as une ceinture noire.
Ceinture noire.
Alors, c'est que de la radio, mais j'ai dans les mains une ceinture noire.
Oui, la ceinture est passée.
Alors, oui. Mais alors, pour sumo, hein. Elle est très très grande quand même.
Parce que beaucoup de muscles. C'est pour ton.
J'ai une petite question. Le jour où tu nous parles des camions, tu nous amènes un camion.
Ouais.
Okay. Bah déjà le tram.
J'ai failli venir avec mon tram tout à l'heure. Mais...
Ah non, mais une ceinture noire, ça veut dire
qu'elle vient du Japon.
Elle en a vu de la couleur. Hein. Ouais.
Elle était fabriquée au Japon.
Ah oui, Made in China, c'est pas non plus.
Non, la personne a été l'acheter au Japon dans une fabrique exprès.
D'accord.
Et alors, qui autour de la table a fait du judo?
Moi.
Ah, Théo fait du judo.
Non, j'en fais plus, mais j'ai switché, j'ai fait du judo jusqu'à la ceinture orange et ensuite j'ai fait jujitsu en reprenant ma ceinture orange et en augmentant.
Oui,
mais j'ai arrêté à la ceinture verte.
Et alors je me suis dit, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de quand et comment étaient créées les ceintures justement de couleur, les fameuses ceintures de couleur, les grades?
Non, pas du tout.
Parce qu'au début, donc on parle là, qui a inventé le judo? Bah, t'as fait du judo, qui a inventé le judo?
Oh non, mais ça remonte, j'aimais pas le judo en plus.
David Douillet?
Non.
Non.
Monsieur Judo, non. Jigoro Kano.
Jigoro
Kano, qui est né en 1860, qui est mort en 1938, qui a inventé le judo en 1882. Je vais essayer d'être très rapide et très court. Il enseigne au début, il faisait du jujitsu, justement, et il a dit, je vais créer le judo. Il a enlevé tout ce qui était un petit peu dangereux, il a créé le judo. Et au début, il n'y avait pas de grade. Et puis, rapidement, il s'est dit, bon, on va quand même mettre des grades, parce que les élèves, ils ont envie de changer. Mais il n'y avait que trois grades, qui correspondaient en gros à la ceinture blanche, la ceinture marron et la ceinture noire.
En fait, il se lavait jamais, quoi.
Voilà, c'est ça.
Il arrivait tout propre et à la fin.
Il a longtemps fait ça et puis au bout d'un moment, le judo s'est exporté. Donc ils ont essayé d'aller un petit peu dans le monde pour exporter le judo, notamment en Europe. Et en Europe,
ils sont tombés sur Irigo et pour faire content tout le monde, ils ont mis toutes les couleurs.
Irrigué partout.
C'est ça, là, tes chroniques, elles se ressemblent en fait.
Oui, à peu près. Non, en fait, c'est Mikinosuke Kawashi,
enchanté,
qui est un des maîtres du judo, qui a été d'abord en Angleterre, puis en France et qui a créé le premier club de judo. Alors, c'était à la capitale, à Paris. C'était en 1935. Et il s'est aperçu que les Européens, contrairement aux Japonais, ils sont pas patients. C'est-à-dire que patienter 6 ans, voire 10 ans
pour changer
de ceinture et passer la ceinture noire, ça leur plaisait pas. Eux, ils avaient envie de nouveauté, ils avaient envie justement de changer tout le temps. Donc ils se sont dit, on va créer des grades. Et c'est comme ça qu'a été créé, donc en 35, les grades de judo, qui étaient à l'époque, alors maintenant il y en a un peu plus, mais à l'époque il y avait que 6 grades différents.
Et plus ça va, plus on en rajoute alors.
Et il y en a eu qui se sont rajoutés parce que les jeunes, ils ont envie que justement...
Voilà, ils sont encore plus
très rapides. Les premiers grades de judo, les couleurs, les premières couleurs.
Alors blanc.
Blanc.
Jaune.
Orange.
Vert.
Bleu.
Ah, mais connais ça?
Vous êtes trop fort.
Mais tu connais ça?
C'est comme au karaté, en fait, j'ai fait du karaté, donc c'est les mêmes couleurs.
Mais c'est les mêmes couleurs.
Comme au tennis, les balles au tennis, c'est les mêmes couleurs, du coup, ils ont tous repris les mêmes.
Attends, j'ai un truc que je comprends pas là. Les balles au tennis, c'est. Attends.
Oui, on a des petites balles quand on fait des trucs, on a des balles là. T'as, comme les flocons quand t'apprends à skier. T'as la balle blanche, t'as la balle jaune, t'as la balle.
Il y a des balles de tennis. Alors, mais c'est quoi? C'est des pins? C'est des comment?
C'est ça, c'est des pins, ouais.
Ah ouais.
D'accord. Et en japonais? Donc oui. La différence. Alors, après, il y a les ceintures noires qu'on appelle aussi des danes.
Yotno dan.
Premier dan. Et alors, par contre, là, on monte premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Hop.
D'accord.
Et avant, on appelle ça des Q.
Des Q.
Des Q. Ouais. D'accord. Des Q. Et on, par contre, on part du sixième et on revient jusqu'au premier.
Au premier Q.
Sixième Q, c'est à peu près ceinture blanche. Cinquième Q, ceinture jaune. Quatrième Q, voilà. Et on, premier Q, ceinture marron.
Donc le maxi, c'est quoi? C'est le noir, troisième dan, quatrième dan?
Non. Alors après il y a les danes et les danes on va jusqu'au dixième dan.
Ah quand même, donc noir, voilà. Dixième dan.
Noir dixième dan, c'est vraiment le plus haut grade.
D'accord.
Voilà.
Et toi tu t'es arrêté à combien?
Alors je ne suis que deuxième seulement.
Deuxième dan, c'est voilà. Bien aussi.
J'ai arrêté il y a 3 ans et Jigoro Kano, on lui a remis un grade à titre posthume qui est le seul au monde à avoir ce grade-là, c'est le 12e dan.
En même temps il a inventé le truc. Donc
voilà. Le 11e, il n'y en a pas pour l'instant. Non. Et sachant que pour pouvoir passer... il faut qu'on soit jugé par des grades supérieurs. C'est compliqué.
Le dernier pourra jamais.
Voilà, ça va être compliqué d'avoir officiellement un 11e dan. Voilà, c'était la fin de ma chronique.
Très intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
Il y a même des couleurs intermédiaires. Enfin, au karaté, je sais qu'il y a les blanches-jaunes, jaune-orange, orange-vert, vert-bleu.
Ouais, comme les fils de terre, quoi.
C'est quand, du coup, tu n'arrives pas à avoir la ceinture du dessus, du coup. On te récompense de cette façon-là en disant t'es à l'intermédiaire.
C'est aussi parce que normalement il y a des âges et pour faire patienter, on dit on va faire passer une ceinture entre les deux.
D'accord. Et si on est daltonien, on peut jouer au judo quand même ou ça pose problème?
Oui, tout à fait. Ce qui est marrant, c'est que les fabricants de ceintures de couleurs ont été plus vite que la fédération de judo.
Ils ont inventé des trucs.
Ils ont créé. Alors je crois que c'est la verte bleue qui n'était pas dans la progression officielle de judo. Et donc ils se sont dit ils ont fait avant, on va faire aussi la verte bleue et du coup ça a été intégré mais c'est pas officiel.
Je crois que la rubrique est terminée normalement.
Oui, c'est pas là. Hein, c'est pas mal hein.
Je me rappelle juste avoir été coupé avant.
Oh là là là. Mais alors attention, elle a la rancune sévère quand même hein.
Alors moi vous en tirez pas comme ça.
Ah. Bon allez, on va rejouer. C'est reparti avec un nouveau Graal. Cette fois-ci, il faut découvrir une chanson avec juste les paroles. Jouez avec nous sur le chat de radio-g.fr en donnant votre réponse.
Salut! Partons à la rencontre d'une chanson. Grâce à la lecture des paroles, vous allez devoir trouver le titre et l'interprète. Soyez le plus rapide. C'est parti!
Si tu voulais encore de moi, elle m'a dit, j'ai pas l'habitude de m'occuper des siens comme ça, et toi et moi. On était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire, et pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi, et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi.
Avez-vous retrouvé le titre de cette chanson de 2002 et chantée par un groupe français formé en 1981? Je vous laisse encore quelques secondes.
J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière à lui, je ne guérissais pas.
C'était bien sûr « J'ai demandé à la lune » chantée par Indochine. Elle fut écrite en 1994 par le chanteur de Mickey 3D. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast.
Eh bien, il s'est fait avoir, Olivier. Ouais. Hein, il pensait que c'était Mika. Et c'est vrai que la chanson de Mika commence exactement pareil.
Ah, quand même.
Donc, oui, c'est très étonnant. Mais là, en fait, non, c'était... C'était donc plutôt Indochine. Allez, avant de nous quitter, on va aborder quelques petites brèves locales, à voir si ça vous intéresse. Donc vous pouvez voter sur votre smartphone si vous voulez. Alors, on rappelle que si vous nous écoutez en direct, hein, vous avez aussi la possibilité de voter de chez vous sur radio-g.fr. L'ancien squat de la Grande Ourse, près du pont de Verdun. Est-ce que vous voyez ce que de quoi je parle, hein?
Il y avait le magasin de meubles.
La Nipem. Qui était effectivement là-bas. C'est, donc le squat a été délogé en janvier 2021 et il va être transformé en résidence de prestige. Et le propriétaire, c'est Bertrand Baudert, c'est le président de la boucherie. En fait,
ça manquait quand même sur Angers.
C'est, oui, de résidence de prestige, tu sais, c'est sûr. Donc en fait, le chantier de démolition a commencé le 9 novembre de cette année et un local d'activité sera donc présent. Il y aura 5 appartements qui seront aménagés derrière la surélévation, donc la sur la façade historique qu'on voit. Donc je pense que ça va être assez classe, effectivement. Ouais. Cet ancien atelier reconnaissable à son fronton a été acquis après la fermeture donc du magasin Lamipem le 20 mai 2017. Donc voilà, ça va changer, mais je pense pas que ce sera dans nos prix.
Non, je crois pas.
Voilà. Le marché de Noël à Angers, régulièrement placé parmi les 10 plus beaux marchés de France. Vous saviez ça?
Qui a voté?
Je ne sais pas, mais en tout cas. Donc il va s'ouvrir le mercredi 29 novembre et il ira jusqu'au 30 décembre. Donc il y a 90 chalets quand même sur la place du Ralliement, rue du Neveu et place du Pilori. Et en plus du marché de Noël, donc il y a toujours le village Santa Claus maintenant qui est sur le jardin du Mail. Voilà, pareil, il est ouvert aux mêmes dates. La Grande Roue, il y a également, et le Sapin Magique, hein, de la place Lorraine, seront ouverts à partir du 4 décembre. Et les illuminations, qui sont déjà installées dans la ville, seront allumées à partir du 24 novembre, de 17h30 à 23h. J'arrive toujours pas à 100%, donc je continue pour tous ceux qui souhaitent rencontrer le Père Noël.
Et le Père Noël, il arrive quand?
Alors, eh bien, il sera place Sainte-Croix à partir du dimanche 3 décembre, et chaque mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 19h avant Noël, et le 24 décembre, de 13h à 17h. Voilà.
Et la foire Saint-Martin, t'as oublié, c'est en ce moment.
Alors justement, la foire Saint-Martin, c'est un événement incontournable de l'Ouest et se classe parmi également les top 10 des plus grandes fêtes foraines de France. L'édition 2023 de la foire Saint-Martin d'Angers se déroulera donc du vendredi 10 novembre, elle a commencé, au dimanche 3 décembre. Donc ça a lieu depuis plus de 50 ans sur la place de la Rochefoucauld. Donc c'est ouvert le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça, je fais une chronique à la Florian. Les mercredis et dimanches de 14h à minuit, les vendredis et samedis de 14h à 1h du matin, en sachant que tard le soir, il y a un petit peu d'animation qu'il faut éviter. N'est-ce pas? En ce moment, ça frite.
Il y a déjà eu, dès le premier soir.
Dès le premier soir, ils se sont foutus sur les. Donc, faites attention, voilà, les gens qui n'ont pas envie de faire des manèges, ils ont juste envie de faire du grabuge. Mais la journée, ça va. Vous y allez avec les enfants, c'est pas gênant du tout. Voilà. Les Givrés d'Anjou, c'est un groupe de baignade hivernale qui se réunit une et deux fois par mois autour d'Angers entre octobre et avril pour s'immerger dans l'eau froide. Voilà. Si ça vous intéresse, ils ont commencé leur saison au Sablière. Voilà. Et puis, ils ont décidé tous les dimanches de se baigner dans l'eau froide. Ok, bon, et eh ben ça vous passionne, donc on va arrêter l'émission ici. C'est la fin
C'était
de ce numéro.
Très intéressant.
Oui, en plus tu as raison. C'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir, merci à Yann.
Merci et je renvoie l'invitation. C'est-à-dire que je suis venu chez vous, maintenant faut venir chez moi.
J'étais déjà venu chez toi une fois, mais on pourra revenir là, effectivement.
Tout le monde, voilà,
le dimanche de 17h à 19h. Merci Manu.
Ben merci.
Merci Joe. Merci Théo.
Merci
Florian.
Eh ben merci.
Merci Olivier.
Merci.
Et merci Orlan.
Merci à toi.
On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Il est temps de refermer nos tiroirs avec la pause improbable pour terminer en beauté l'émission. Alors comment une musique toute gentille, eh bien on peut faire passer un message et même dire des grossièretés de façon tout à fait naturelle. Eh bien va te faire foutre, c'est le titre improbable de cette chanson que vous avez tous fredonné. Voici Lily Allen avec Fuck You. Bonne soirée et n'oubliez pas, avec DMT, vous avez le pouvoir. Do you really enjoy living a life that
Should be losing control of it, and it's really.